Une bonne nouvelle, vos droits d'inscription vont être réduits parce qu'il n'y a pas de chauffage.
Et ça, on n'y peut rien.
10%. Ah ben, si. Bon.
C'est Résus qui va aller voir le père.
Je suis allé déjà, puis c'est une paroisse d'une mollasson particulièrement aiguë. Bon. Nous avions terminé la dernière fois, donc il y a une éternité, sur le Concile Vatican II. Je rappelle en deux mots ce qu'on avait dit, pour que vous soyez à nouveau dans le bain. Ce concile donc a été convoqué de façon tout à fait inattendue. Je crois que lui-même n'avait pas trop penser à la chose par Jean XXIII. En plus, en plein mois de janvier. Comme ça, on était tous un peu éberlués. Bon, ça supposait, par rapport à ce qui avait été fait précédemment, un changement très important. Surtout, la perspective et la visée. Les conciles, préalablement, s'étaient toujours faits ou pour mettre de l'ordre dans la doctrine, ou quand il y a des questions compliquées, des doctrines, justement, ou des disciplines. Par exemple, le concile des Trente du XVIe siècle avait été convoqué, justement, pour faire face à la réforme protestante. Il aurait fallu le faire avant, et éviter que la réforme protestante s'efface, mais enfin, bon. La réaction est un peu tardive, comme le chauffage ici. Ça vient, quand on sera tous, quand on aura tous la crève, à ce moment-là, il dira, ah, bon. Là, ça a été pareil. La finalité de ce concile de Vatican II, parce qu'il s'est présenté comme la suite du concile Vatican I, qui avait eu lieu en plein du XIXe siècle, c'était, comme disait Jean XXIII dans le premier temps, un aggiornamento, c'est-à-dire une actualisation, ou si vous préférez, un dépoussiérage. Et avec les temps, vous savez très très bien, vous, qui, hommes et femmes, qui faites le ménage chez vous, la poussière, ça... Et il y a toujours un courant qu'on ne fait pas parce qu'on ne voit pas, et c'est vrai, et, tout, et trois mois plus tard, on se dit, mais qu'est-ce que c'est l'histoire? Ça s'accumule. Et Dieu sait si dans des institutions, la poussière aussi s'accumule à force de faire toujours comme avant. On a toujours fait comme ça. Fait bon. Bref. Ça, c'était donc la visée. Concrètement, ça a été un changement complet des logiciels. Je vous rappelle que tous les conciles précédents, les résolutions, c'était tout le temps... C'est lui qui dit que qu'il soit anathème. Et ça, c'est terminé toujours par anathémacite. On aura dit une perspective de condamnation de ce qui ne passait pas, ce qu'il fallait, ce qui ne faisait pas, ce qu'il fallait, etc. Et en même temps, ce qui veut dire que ces conciles précédents avaient une dimension extrêmement juridique. Je ne dis pas que c'était que juridique, mais l'enveloppe, si vous voulez, les chocolats qui entouraient cette amende, c'était du juridisme. Et du coup, au XXe siècle, c'était un peu raide de fonctionner comme ça. Du coup, ils ont complètement changé, comme je vous disais, des logiciels, et ils ont pris une option qu'on appelle pastorale. Autrement dit, comme on dit maintenant, on a fait les choses de façon positive. Au lieu de dire celui qui n'est que ceci, qu'il soit condamné, non. Voilà quelle est la position de l'Église concernant la nature de l'Église, concernant la liturgie, concernant les relations avec les autres religions, etc. Donc ça a été, disons, assez, enfin, très novateur de ce point de vue. Et il est vrai que même la préparation avait été faite dans l'esprit et dans la manière de faire d'avant. Du coup, comme je vous l'ai dit, je crois, dans une première séance, il y a eu un clash, mais alors particulièrement voyant, en pleine séance. Le président de cette séance était un cardinal de la curie très connu, célèbre, français, Tisserand, qui était un grand orientaliste. Et à ses côtés, il y avait un autre français, le cardinal Liénard, qui était de Lille. Un grand type, très ouvert, etc., et qui dit à l'autre, donne-moi la parole. L'autre dit, je ne peux pas. Le règlement ne me le permet pas. Deuxième question, donne-moi la parole. Je ne le peux pas. Bon, comme on fait dans ce genre de cas, si on ne me la donne pas, on la prend. Il s'est levé et il a massacré les documents préparés pour les conciles. Et du coup, ils étaient tous... Et qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce genre de cas, on fait appel à l'autorité supérieure. Donc, ils ont... Bon. Qu'est-ce qu'il veut le pape ? Et le pape a dit... Oui, effectivement. Ces textes sentent trop la naphtaline. Et du coup, ils ont créé des commissions pour faire des propositions sur le thème qui tenait à cœur. Et donc, il y a eu tous ces thèmes que je vous ai dit. Il y en a eu qui ont été particulièrement difficiles. Particulièrement, la question de la liberté des consciences. Et c'était des textes que, actuellement même, les gens comme Lefebvre, etc., n'acceptent pas. On n'est pas libre devant la vérité. Bon. Et là, il affirme que l'homme reste fondamentalement libre, même devant la proposition de Dieu. Il reste libre pour dire non. Après, bon. La question avec les judaïsmes, le rapport avec les judaïsmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, dans la célébration du Vendredi Saint, il y a encore, hein, une litanie très longue pour prier, une sorte de prière universelle très longue, etc. Et entre autres, on priait pour les juifs, mais on priait pour les perfides juifs. Alors si vous commencez par voir quelqu'un, vous dites, ah tiens, vous êtes un des mes perfides préférés. Bon, c'était pas un langage très, disons... propre à créer l'empathie, comme on dit maintenant. Du coup, la relation, enfin, il a fallu clarifier quel type de relation nous avons avec les Juifs et pourquoi. Ce qui n'est pas d'une clarté sublime, hein, là je vous signale, parce que si vous essayez de voir avec Paul, par exemple, qui est celui qui a le plus... réfléchi, disons, théorisé cette question, si vous arrivez à comprendre clairement le tout et à l'expliquer après, ben, c'est pas la peine que vous continuez au CIF. Hein. Ça y est, vous aurez gagné le CIF et le ciel. Bon, donc c'est une question compliquée. La liturgie, c'est celle qui a, si l'on peut dire, le plus... échauffer les gens pour une raison très simple, parce que la liturgie, c'est un des lieux qui ramasse, c'est le plus puissant ramasse-poussière de tout ce qui existe. Bon, là par exemple, nous sommes en manque de pluie. Bon, ça fait 3 mois qu'il ne pleut pas ici à Dougras, dans la région parisienne. Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rogations pour demander la pluie. Bon. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, va nous envoyer la pluie. Et bon, mais comme il ne contrôle pas tout très bien, il va y avoir trop de pluie. Mais on aura fait pendant 3 semaines des rogations pour demander la pluie, et après on va faire pour que la pluie cesse. Mais dans la liturgie, on va cumuler tout ça. On va faire et pour ceci, et pour cela, et pour ceci, et pour cela. Enfin, vraiment, c'est... Donc il fallait absolument, il y a quantité des rites que nous avons par exemple à la messe, maintenant encore, qui sont le produit, par exemple. Un cas comme ça, vous aurez compris tout de suite. À un moment, après l'homélie, quand il y en a, il y a ce qu'on appelle les lavabos. C'est-à-dire, le prêtre fait semblant de se laver les mains avec 3 gouttes d'eau, etc. Bon. Quelle est la fonction? Eh bien, bon, de se laver les mains pour... faire la prière eucharistique avec les mains propres. C'est une intention très noble. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas se laver avant? Si vous regardez, ça s'est fait après les offrandes. Je me souviens très bien, une fois, on était allé, un groupe de profs en Inde, etc., on était allé un dimanche dans un petit village rural pour assister à l'Eucharistie. Et là, il y avait eu des vraies offrandes. Les gens venaient avec des mangues, des patates, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ah, bon. Et le prêtre prenait tout ça. À la fin, évidemment, il y avait la même plein de terre. Donc, il se lavait très bien. Là, c'est parfait. Mais nous, ici, à quoi ça rime, ça? Jadis, quand les gens, même chez nous, faisaient des offrandes de ce genre... Très bien, mais là maintenant, c'est un rite absolument inutile. Absolument inutile et sans aucun sens. Bon, il y aura toujours, après, on va se laver les mains, on va faire une phrase pieuse pour dire oui, je me lave les mains comme le corps pour que tu sois pour la purification, je ne sais pas quoi, mais quand vous faites l'origine de ces rites et la fonction, vous voyez que c'est quelque chose qui est complètement disons ridicule. Bon, c'est un peu comme l'histoire de mettre une goutte d'eau dans le calice, de mélanger avec le vin. Je me souviens une fois, j'étais allé présider la messe dans un lieu un peu particulier à Fleury. Et on nous avait changé des bâtiments. Dans les nouveaux bâtiments, il y avait cette fois un diacre qui était tout ému des attributions diaconales à la messe. Bon, il vient affolé, mais il n'y a pas d'eau. Et je lui dis, est-ce qu'il y a du vin? Il dit, ah oui, bon alors. Et il me dit, et la goutte? Il dit, la goutte, oui. À quoi sert la goutte? Quelle est la raison et la fonction de la goutte? Ah ben, je sais pas. Voilà. Vous faites des choses dont vous ne savez pas à quoi ça rime. Écoutez, on met une goutte parce qu'à l'époque des premiers chrétiens, on ne buvait jamais le vin tout seul, parce qu'il était trop fort, trop âpre, etc. Et on mélangeait toujours avec de l'eau. Et on a gardé cette coutume. Mais ça n'a pas de sens. Évidemment, maintenant, ils te disent, oui, comme la divinité s'est mélangée avec l'humanité, etc., comme cette eau s'est mêlée avec la vie, etc. Tout ça, c'est des fariboles. Des phrases pieuses qui n'ont pas de sens. Enfin, qui n'ont pas de sens. Ils peuvent avoir de sens, mais qui ne justifient pas ces genres de rites. Donc, oui. Attendez, je vous entends.
Non, j'entends bien ce que vous dites, mais je crois quand même qu'il y a une dimension symbolique.
Mais la dimension symbolique...
De même que vous revêtez des vêtements, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres quand on s'est les Brevets. Ou je ne sais pas, on peut prendre plein d'exemples. Je crois quand même que la goutte d'eau, j'avoue que vous me la prenez, hein.
Oui, je ne connaissais pas. Mais je vous rappelle exactement la même chose. C'est même nous, l'histoire de la goutte, évidemment. Généralement, je ne porte pas une aube là-bas parce qu'il y en avait une. Mais cette fois, il n'y avait ni aube, ni eau, ni quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Les vêtements liturgiques, si vous voulez, bon, je ne dis pas, surtout quand ils sont beaux et propres, ce qui n'est pas toujours le cas, ça va. Mais là, je dis, bon, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne va pas célébrer parce que je n'ai pas une aube.
Oui, mais s'il y en avait, vous la mettez quand même.
Comment?
Oui, mais s'il y en avait, vous la mettez quand même.
Ah, mais s'il y en a une, je la mets. Si elle touche les belles et propre. Oui. Et donc, je suis sorti devant le 60 prisonniers. Je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas d'eau, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'aube, bon, mais qu'est-ce qu'il faut pour célébrer une Eucharistie? Du pain, il y en a, du vin, il y en a, une communauté, nous y sommes, et l'écriture, on a une Bible, donc on a tout le nécessaire. Donc on va y aller et nous vous dites, ouais, ouais, ouais.
C'est très intéressant, mais pour le pain par exemple, est-ce qu'il ne faut pas du pain de blé?
Ça, c'est une question. Ça, c'est une question importante dans la mesure où, effectivement, on fait comme c'était la réalité à l'époque dans, autour de la Méditerranée. Bon, si vous allez au Vietnam, évidemment, ça sera un peu plus... À mon avis, il n'y a pas, ou il n'y aurait pas, un lien indissoluble entre le blé et le pain eucharistique, à mon avis. Mais bon, ça il faut le voir, c'est une question qui était, c'est la même chose avec le vin.
C'est juste un signe, qui, le sacrement, un signe qui se réalise.
Un signe, justement, sur un objet qui était l'objet de la vie courante, de la vie normale. Là.
Donc, ce que vous dites concernant la goutte d'eau, on pourrait dire pour le blé aussi.
Oui, non, tout à fait. Non, je pense, bon, on a discuté, aussi, c'est là, mais à mon avis, il n'y aurait pas de problème majeur pour faire avec...
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait une liturgie qui existerait? Ou est-ce qu'il y aurait, chacun fait sa liturgie?
Non. Chacun fait sa liturgie, mais c'est exactement la même histoire. Là où les phosphores, on rédige à chaque Eucharistie la prière eucharistique. La prière eucharistique n'est pas n'importe quoi. C'est pas un nouveau sermon que le prêtre va sortir encore et endormir encore plus tout le monde. Non. Il y a des règles. De la même façon qu'il y a, je ne sais pas combien, disons un millier de recettes pour faire la tarte aux pommes, mais vous ne me ferez pas croire qu'une tarte avec des poires, c'est une tarte aux pommes. Pour qu'il y ait une tarte aux pommes, il faut de la pomme, il faut des pommes. Avec de la cannelle, sans cannelle, avec du calva, pas de calva, avec de la crème, pas de la crème, tout ce que vous voulez, mais il faut des pommes. La prière eucharistique, comme le reste, ont un certain nombre de composantes qui la structurent. Donc là, c'est la même histoire. Enfin, chacun va faire ce qu'il veut. Pourvu que ce soit ça. L'Eucharistie chrétienne est composée de deux parties. Il y a une histoire qui arrive toujours. Vous préparez un mariage ou un baptême. Est-ce que on pourrait lire un texte, je ne sais pas, des Deschamps, tiens. Mais ce n'est jamais
à le mettre sur le même niveau et avec le même statut que la ville. On peut le dire à titre de beauté, à titre décoratif, à titre tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas à titre de référence, comme c'est la Bible. Ce qui suppose qu'on sache pourquoi lit-on la Bible. C'est une autre histoire, parce qu'en fait, comme je suis cité d'une clarté franciscaine, mais quand on va le dire, alors là, on est juste dans le là pour ça. Bon. Ça va ? Oui ?
Excusez-moi, mais en fait, c'est le texte qui est important. En situation de guerre ou n'importe quoi, on n'a pas forcément tout pour. Je veux dire, c'est le texte qui est important, c'est pas tellement certains gestes qu'on ne peut pas forcément faire. Je prends l'exemple extrême de la situation de guerre, par exemple, il n'y a pas forcément.
Je ne disais pas non, mais attention, attention, parce que là, vous êtes dans un terrain très glissant.
Je suis sur un terrain glissant. Oui.
Je rejoins que vous êtes assise, donc ça va. Mais, parce que si vous donnez toute importance particulière au texte, vous tombez très vite dans la magie, c'est-à-dire dans la formule. Je dirais que quand j'étais formé, quand j'étais séminariste, je me souviens encore du prof qui nous avait expliqué ça et qui nous disait. Les sacrements, la force des sacrements, c'est vie verbum, c'est-à-dire par la force des mots. Je peux vous dire quelque chose d'autre, par exemple. En 2001, Jean-Paul II régnant et Ratzinger triomphant, ils ont donné un document en juillet, c'était le 21 juillet, qui autorisait les catholiques qui étaient dans un pays ou dans une région où il n'y avait pas de prêtres catholiques, donc il n'y avait pas de messes catholiques valides, d'assister à la messe célébrée par les Chaldéens, qui a priori ne sont pas en communion avec Rome. Et cette Eucharistie leur serait valable. Attendez, non. Sauf que, dans les rites chaldéens dont on parle, il y a la célèbre prière eucharistique de Marc-Marie qui ne comporte pas le récit de l'institution. Prenez, mangez, ceci et mon corps, tout ça, il n'est pas. Et malgré tout, je vous dis, les deux piliers, Jean-Paul II et Ratzinger, ont dit ok. Je me rappelle que, quand j'ai raconté ça ici, au prêtre de Saint-Thomas, il y en a qui n'ont pas dormi pendant 3 jours. Parce qu'effectivement, en quoi réside la prière eucharistique ? C'est pas une question de formule.
Mais justement.
Donc il faut voir de quoi on parle. C'est pour ça que ça, je vous disais que vous étiez dans ce terrain glissant dans la mesure où si on s'accroche trop à la formule, on arrive tout de suite dans la magie. C'est ça le
bon,
je ne veux
pas que vous. Bon, le texte, c'est pas forcément une formule, enfin c'est. Je sais pas,
Oui, non mais. Souvenez-vous, par exemple. Pas encore, il y a des prêtres, et maintenant encore, il y en a qui disent la formule, les paroles de la consécration très lentement, voire deux fois, pour être sûr que ça a été bien dit et que ça a marché. Ça s'est tombé dans la magie pure. Ça, c'est dans certains, je ne dis pas tout le temps. Mais c'est pour ça que je disais que ça, c'est un risque. Bon, donc tout ça a été, disons, nettoyé très positivement de mon point de vue par le Concile. Bon.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ça? Sinon, je passe au numéro 3. Si j'arrive. Ah, vous voyez, je n'arrive pas. Je vois tout à l'heure. Bon. Les troisièmes cours, donc, a pour titre global les contenus de la révélation.
Pardon,
oui.
Il n'y avait pas une lecture, on ne devait pas faire une lecture de Dei Verbum.
Si vous voulez, je vous la lis.
Non, mais par exemple,
Oui. Si vous voulez, je vous la lis, mais sinon, est-ce que vous avez tous les documents de Vatican II? Non. Bon, là, je vous les lis calmement, parce que bon, même si ce sont des textes faits dans une volonté de, disons, de aggiornamento, comme il disait, etc., le langage est quand même un langage ecclésiastique typique. Et en plus, comme ces documents, comme tout document de ces gens, sont le fruit d'un compromis, bah parfois il faut prendre sa patience. Bon.
Ah non, mais si vous pensez qu'on est passé au 3,
oui, on passe au 3. Moi, je préfère qu'on passe au 3.
Comment?
On n'a pas besoin de lire.
Si, si, on a besoin de le lire pour réaliser ce que c'est. Mais comme je pensais que vous aviez ça, mais c'est pas long, hein, c'est. C'est très très court, c'est même pas une petite page. Préambule. En écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint-Concile fait sienne cette parole de Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, suivant la trace des conciles de Trente de Vatican I, on va faire le contraire, mais enfin, il entend proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission. C'est le programme de ces cours, hein, afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, et qu'en croyant, il espère, et en espérant, il aime. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2 est le suivant. Là, c'est un peu plus costaud encore. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans le Saint-Esprit auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, les dieux invisibles s'adressent aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles. Ça, c'est tout à fait nouveau. La révélation était conçue jusqu'alors comme un robinet qui crache de vérité. donc des paroles, tandis que là, ils disent que Dieu s'est manifesté dans l'action et dans les paroles, mais les deux, en parlant et en agissant. Et ça, c'était tout à fait nouveau. De sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et les sens indiqués par les paroles. C'est-à-dire que les actes manifestent ce que disent les paroles et les paroles disent ce que font les actes. C'est un peu la dynamique, si vous voulez, de tout sacrement. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Un condensé un peu dense, voire trop dense, de ce que la révélation et ses documents, là, elle, Dei Verbum, présente tout au long de ces pages. Bon, alors donc, les contenus de la révélation. Premier point, la révélation dans l'Ancien Testament. Pour les Juifs et pour les chrétiens, Dieu se révèle dans l'histoire. On le découvre, Dieu, et on le rencontre, Dieu, dans les événements que vivent les hommes. C'est-à-dire, c'est pas à coup de Twitter ou de SMS que ça marche. C'est dans le concret de la vie qu'on découvre Dieu, qu'on le rencontre. La Bible, qui est un élément essentiel et premier pour les Juifs et les chrétiens, est justement l'expression et les témoignages de cette rencontre entre Dieu et les hommes dans leur vie.
Bon, mystère et route de Rome. C'est pas grave. Maintenant que ça marche ici, ça marche pas. Bon.
Si, ça chauffe, mais il n'y a pas toujours pas.
Ah. Manque de patience, c'est pas la première fois. Voilà. Donc, la Bible, c'est donc le témoignage de cette rencontre dans l'histoire. Sauf les 11 premiers chapitres de la Genèse. Les récits de la création, Caïn et Abel, le déluge, la tour de Babel. Ces 11 premiers chapitres de la Genèse appartiennent à un autre genre très différent qui est ce qu'on appelle les mythes. Alors, je ne lis pas des énormités ni quoi que ce soit. Rassurez-vous, même Jean-Paul II avait reconnu publiquement qu'effectivement, que les 11 premiers chapitres de la Genèse relèvent du genre mythe. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. Mais il ne relève donc pas de l'histoire. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ne nous racontent pas ce qui s'est passé un jour. Ils racontent ce qui se passe toujours. Bon. Je vous dis, on y reviendra. Tout le reste de la Bible fait état d'une manière ou d'une autre d'une relation entre Dieu et l'homme comprise et vécue par ceux qui en parlent. Avec la particularité qu'effectivement nous avons beaucoup de textes de la Bible dont on ne sait pas qui est l'auteur réel, même dans le Nouveau Testament. Évangile selon Saint-Marc. Oui, d'accord, qui est Marc? Est-ce que vous avez une copie de sa carte d'identité? Luc. On sait qu'il est différent de Marc, ça c'est tout à fait certain. Bon. Jean. Jean, c'est un peu comme si on disait Dupont. Jean. Bref, et pour l'Ancien Testament, je ne vous dis pas, on connaît un livre qui porte la signature de son auteur, le Siracide, Ben Sira. Oui, ah, d'accord. Ça, on sait quand ça a été écrit, par qui, etc., etc., qui était son neveu. Enfin, bref, là, bon, pour les prophètes, là, ça s'est compliqué un peu. On peut dire qu'il y a eu, à l'origine du livre d'Isaïe, un prophète au 8e siècle, qui s'appelait Isaïe, que son papa s'appelait Amos, très bien, et que ses fils s'appelaient l'un Sear Yashub, et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin, bon. Mais le livre, ce n'est pas lui qui l'a écrit, parce qu'il y a des textes qui datent du 4e siècle, et entre le 8e et le 4e, il y a quand même 4 siècles. Le livre d'Isaïe a mis 4 siècles pour surgir. Jérémie, c'est pareil. Ézéchiel, n'en parlons pas. Bon, bref. C'est, si on peut dire, ce sont des œuvres, je ne dirais pas collectives, le mot est un peu malsonnant. Mais c'est le produit de la vie d'une communauté qui a reçu et qui a réactualisé en permanence le propre de la Bible. C'est une réécriture constante. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les prophètes ont été gardés. Parce que les interventions prophétiques étaient pensées et voulues comme des interventions ponctuelles. Ponctuelles, c'est des questions très ponctuelles. Mais les auditeurs ont reçu cette parole, ils l'ont reçue comme étant aussi valable pour d'autres situations similaires. Pour que ces textes puissent, dans d'autres circonstances, provoquer et susciter une parole des fois comme au moment où le prophète originaire l'avait fait. Pas si je m'explique ou si c'est un peu trop compliqué, parce qu'il faut expliquer pourquoi les paroles du prophète Osée qui ont été ou le prophète Isaïe qui ont été faits pour des questions extrêmement précises, des questions politiques surtout. Qu'est-ce que ça peut faire? Par exemple, quand il a fait la célèbre prophétie sur l'Emmanuel, pourquoi garder ces textes? La chose était déjà faite, passée. Pourquoi ? Mais justement. Parce que les disciples et les auditeurs ont, les destinataires de la première heure, si l'on peut dire, ont considéré que ces textes étaient capables de susciter une réponse des fois de la part des croyants dans des circonstances différentes, mais quelque part similaires. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ils ont été relus, réinterprétés, complétés, augmentés, etc., etc. C'est pour ça que les livres de la Bible, c'est une histoire extrêmement longue, qui est faite des lectures et des relectures permanentes.
Oui. Est-ce que depuis la fixation du canon, il y a réécriture encore?
Non.
C'est terminé.
Ah, c'est une chose, effectivement, c'est une des questions qui excite beaucoup de monde, effectivement, c'est tout à fait légitime quand on dit ça, mais il dit, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés à un moment? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté la Constitution française? Et même le camarade Macron, il va avoir beaucoup de mal à la changer, parce que c'est une référence. Et c'est une référence qui, en même temps, admet obligatoirement des adaptations. D'où les conseils constitutionnels qui cherchent d'interpréter cette constitution. Donc, à un moment, il faut fixer les limites de la référence. Sinon, vous aurez les Kanaks et les Corses et les Catalans et les Basques et tout le monde qui trouveraient des additions à la Constitution ou bien le syndicat machin ou le MEDEF ou je ne sais pas quoi. Enfin, tout le monde toucherait ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut une référence bien délimitée. Et ensuite, une instance reconnue par tous, capable de pouvoir l'interpréter.
Mais la Constitution française, même si ça n'a pas bougé depuis quelque temps, personne ne dit que ça ne peut pas bouger. Est-ce que pour le texte canonique,
le texte canonique, normalement, on ne peut pas, parce qu'effectivement, on s'est mis d'accord pour dire qu'effectivement, qu'on arrête. Et vous avez tout le phénomène des apocryphes, par exemple. Comment est-ce qu'on fait? Ce texte est tout à fait valable, tout là, celui-là, poubelle. En fait, même les apocryphes, par des biais relativement détournés, ils reviennent quand même sur le devant de la pratique. Ça, c'est tout à fait certain. Mais bon, ça, c'est un problème tout à fait important. C'est une partie du cours numéro 8, le canon. Mais on verra. Parce que, d'autant plus que c'est un sujet dont on ne parle jamais nulle part. On fait comme si ça allait de soi, mais ça ne va pas forcément de soi. Oui ?
Comment les apocryphes reviennent-ils un peu ?
Mais très simple. Je ne sais pas si vous êtes allé en Turquie, en Pèlerinage Saint-Paul ou je ne sais pas quoi. Et à Istanbul, il y a une chapelle, enfin une église qui s'appelle Saint-Sauveur in Hola, c'est-à-dire Saint-Sauveur des champs, comme on dit, Notre-Dame des champs, etc., etc. C'est une petite église, très mignonne, qui est couverte de haut en bas et de droite à gauche, partout, des mosaïques. La première fois que je suis allé, j'étais un peu éberlué parce que vous allez là représenter toute l'imagerie, par exemple, que nous avons à propos de la naissance de Jésus et tout le reste. Les bœufs et l'âne, la fuite en Égypte, tout, avec des dessins qui sont très très beaux, d'ailleurs, enfin, mosaïque superbe. Donc, qui sont, disons, des représentations qui sont écrites dans des évangiles apocryphes qui ont été... Quand vous voyez dans cet évangile, par exemple, que le petit Jésus jouait avec ses copains dans la rue, et comme il n'y avait pas des tablettes ni des machins, et il jouait avec de la boue. Comme on a joué. Alors il faisait des figurines, si vous voulez, de oiseaux ou des souris ou tout ce que vous voulez, avec de la boue, comme ça. Mais alors, avec la différence que Jésus, il faisait ça, il faisait comme ça, et les oiseaux s'envolaient réellement. Bon, c'est des textes dont une des caractéristiques essentielles, c'est le merveilleux à 1000%. Autrement dit, les miracles, ben alors, bon, à la pelle. Tandis que le merveilleux dans les évangiles canoniques, il y en a, c'est très pensé, réfléchi, et ce n'est pas pour faire du cirque. Ce n'est pas le cirque. Bon, par exemple, il y a un cas qui est... Je mis des années à réaliser ça. Vous avez par exemple dans Marc deux fois, et dans Luc une autre, et dans les autres aussi. Jésus donne à manger à la foule. Ils l'ont suivi... Les soirs, c'est fait tard, il n'y a pas des bistrots, tout ça. Donc, les gens ont faim. Et Jésus dit, mais enfin, et dit à ses disciples, ces gens, et les disciples, écoute, tu les envoies chez eux, et puis qu'ils se démerdent. Bon, non. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples disent, on a que deux pains ou cinq pains et deux poissons, qu'est-ce que c'est ça pour cette foule? Bon. Il dit, repartez ça. Bon. À aucun moment, aucun de ces récits, que ce soit Marc, Matthieu, Luc ou Jean, on n'utilise pas le verbe multiplier. Jamais. Jamais. Et pourtant, même dans beaucoup de Bibles, les titres ou les sous-titres qui n'appartiennent pas au texte, bien entendu, mais qui sont l'œuvre du traducteur pour aider l'éditeur, etc. On utilise, et on parle toujours de la multiplication de pains. Et dans le texte, on ne parle jamais de ces verbes. Donc la tendance au merveilleux est innée. Mais justement, les évangiles sont d'une... prudence des cirques par rapport à la question du merveilleux. C'est que les apocryphes, alors là, ils lâchent les brides, alors là, vous avez ça, vous voyez, Jésus qui faisait ci, qui faisait là. Enfin. Bon. Et tous ces. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, on avait au mois de mars des célébrations paraliturgiques. En honneur de Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le 19 mars, et puis avant, il y avait... Alors, on pompait, mais alors, sans aucun scrupule, dans les évangiles apocryphes. Parce que sur Joseph, qu'est-ce que vous pouvez dire? Encore moins. Pas peu, non, encore moins. Donc, s'il fallait trouver quelque chose pour alimenter la piété et cultiver, disons, la dévotion à Saint-Joseph en Bombay, et on trouvait, par exemple, des scènes tirées de ces évangiles apocryphes sur la fuite en Égypte. Et là, vous voyez les palmiers, au passage de la Sainte Famille, les palmiers qui se penchent pour qu'ils puissent... prendre quelques dates sans trop d'efforts, bon, par exemple. Bon, enfin, c'est pour ça que la différence entre... Ça n'a pas dû être très facile, mais en même temps, comme je vous dis, les apocryphes reviennent par, disons, la religion populaire, si l'on peut dire. Et on les a beaucoup plus pressants qu'on ne le pense, dans toute cette histoire-là. Quoi. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, est-ce que vous pouvez me dire l'heure, parce que je n'ai pas d'heure.
Moins 5,
d'accord. Bon. L'histoire est un élément décisif dans l'articulation même de la foi chrétienne. Si l'on commence à faire l'histoire, je veux que j'étais étudiant à la Cato, les cours Histoire d'Israël comportaient 6 semestres. À raison de 2 heures de cours par semaine. Voyez un peu le travail. 6 semestres. Bon. Les origines d'Israël restent dans un brouillard certain. Enfin, il est impossible de parler de cette époque lointaine avec un minimum de rigueur historique. Ce qui ne veut pas dire que ce que le texte dit n'est pas pertinent. Ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire, nous n'avons pas des éléments matériels qui nous permettent d'établir des faits et de les lire. Et surtout, nous n'avons pas des sources différentes. Et pour faire de l'histoire, il faut toujours avoir des sources différentes qu'on puisse contraster. Sinon, ça ne marche pas. Nous sommes donc dans l'incapacité de confronter des sources, comme fait tout historien qui se respecte. Nous avons des textes qui parlent des ancêtres, par exemple, des patriarches. Mais à partir de la problématique qui est celle des auteurs qui ont écrit ces textes. Et de façon très réelle, par exemple, de la problématique qui était celle du retour de l'exil. Du retour de l'exil de Babylone. Donc, autour de 500. Évidemment. Théoriquement, on situe Abraham vers 1800 avant. Mais les textes qui en parlent sont de 500. Autrement dit, donc par exemple, un truc qui est très très bête, mais on nous cite Abraham comme l'ayant, ou Jacob, ayant des caravanes des chameaux. Pourquoi pas? Sauf que, historiquement parlant, les chameaux ont été domestiqués autour de l'an 1000. Bon, je vois qu'ils étaient très en avance, mais enfin, quand même, avec modération. Donc, c'est genre de choses qui... Le séjour en Égypte et la sortie de ce pays ont laissé, comme vous savez très bien, une trace absolument essentielle dans les textes bibliques. Pas dans tous les textes bibliques, contrairement à ce qu'on vous... Isaïe, le grand prophète Isaïe du 8e siècle, n'en parle jamais. Ni du Sinaï, ni de l'Égypte, ni de Moïse... De l'Égypte, il en parle, mais comme une puissance politique et économique. Et ça, oui, mais pas comme l'Égypte, d'où le peuple serait sorti. L'Égypte, la sortie d'Égypte, l'Exode ne joue aucun rôle dans Isaïe, ni dans Amos. En revanche, chez Osée, alors là, par panier, ça, oui. Donc, ça permet à tel point la question de l'Égypte et de l'Exode a marqué une partie du peuple, mais peu à peu, il est devenu la référence de tout le peuple. Et à partir de l'exil, tout le monde avait l'Exode comme référence fondatrice. Mais historiquement, avant eux, il y en avait d'autres qui avaient d'autres références théologiques, mais pas l'Exode. Cet enracinement de la relation de Dieu avec Israël dans l'histoire apparaît aussi dans les profils que dans les textes d'Israël a son Dieu. Partout apparaît comme étant un Dieu libérateur. Les dieux d'Israël, que ce soit l'Exode ou dans d'autres variantes, c'est un dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage. C'est un dieu qui libère et accompagne. Et en accompagnant, il nourrit. Donc, c'est un dieu qui s'engage, qui se mouille. Dans les situations politiques et en même temps sociales. Là, on nous sérine maintenant qu'on avait cette histoire de migrants. L'accueil du migrant par Israël fait partie de l'ADN la plus profonde. Depuis, il n'y a bien plus. Mais l'accueil du migrant, des guérimes, tu aimeras les migrants comme toi-même. Et dans le Lévitique, Dieu dit, vous êtes pour moi tous des locataires et la terre ne vous appartient pas. La terre m'appartient à moi. Et vous êtes dans la terre comme des locataires. Mais dire, tu aimeras les migrants comme toi-même, ça on ne le sort pas souvent. Bref, c'est un Dieu qui agit et réagit aux cris de détresse de son peuple. Vous pouvez lire Exode, chapitre 2, versets 23 à 25, qui est le préambule de l'appel de Moïse et tout le reste. Le peuple opprimé, on le fait travailler même pas le SMIC, enfin bref, passons, et le peuple en a marre, et il crie vers Dieu. Dieu entendu et vu, et Dieu agit. Et il a dit ça souvent. Si tu opprimes la veuve ou l'étranger, etc., et s'il crie vers moi, j'entendrai, j'écouterai, et tu vas voir. Tes femmes resteront veuves et tes enfants orphelins. Donc, c'est les cris. Quand on nous dit tout le temps, à mon avis un peu trop maintenant, il faut louer Dieu, on va louer, on est dans la louange. Et quand êtes-vous dans le cri ? La relation avec Dieu, de la Bible, C'est passe par le cri et la louange, le Dieu. C'est les deux. Mais on ne peut pas faire l'un ou l'une sans l'autre. Il y a un livre qui est paru déjà il y a 15 ans à peu près, à propos des psaumes d'imprécation, et qui dit, enfin le titre est « Ne pas se plaindre à Dieu » ou « Ne pas se rebeller contre Dieu, c'est l'insulter ». Si vous ne faites que louer Dieu, vous l'insultez. Ça encore, quand vous voyez par exemple un tiers des psaumes, ce sont des psaumes de lamentation. Et parmi ces tiers, la moitié au moins des prières contre les ennemis. Bref, bon. Je m'arrête là, 5 minutes et on revient.